Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous sommes dans notre catéchisme de l'Église catholique, dans les articles 309 et suivants, c'est-à-dire la question de la providence et le scandale du mal. Et je vois au numéro 312, à l'article 312, cette phrase « Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. » Avec cette précision que le mal n'en devient pas pour autant un bien. C'est important, effectivement, à voir. Mais donc, il y a ici l'idée que le mal moral le plus grand dont Dieu va tirer un bien, c'est le meurtre du Fils de Dieu. Je me disais, en voyant ça, parce qu'on l'entend en réalité aujourd'hui, peut-être plus qu'à d'autres époques, le rapport... à Dieu, le rapport au monde, au mal, n'est peut-être pas le même. De fait, il n'est pas le même. Est-ce que ça peut pas être choquant pour certaines personnes? Je pense à des personnes qui, même autour de nous, sont malades ou alors subissent des choses assez douloureuses, très humiliantes, que ce soit pour la maladie, mais même plus pour des violences terribles, qui pourraient se dire, mais... Le mal moral, le mal du Christ, le mal physique du Christ est énorme, mais des gens partagent un mal physique énorme aussi. Est-ce qu'on ne peut pas entendre dans cette objection-là quelque chose qui est un peu dérangeant ?
Oui, et c'est vrai aussi pour le mal moral. Il y a des personnes qui agissent parfois contre d'autres d'une manière systématique, que l'on pense au camp de concentration pendant la Deuxième Guerre, que ce soit du côté soviétique après 1946 et même déjà avant le goulag qui avait déjà commencé, ou du côté nazi avec les camps de la mort. Et c'est une machine vraiment immorale qui s'est mise en place avec des milliers de personnes qui se mettaient au service du mal moral pour infliger un mal physique à des millions de personnes. Et on pourrait se dire en proportion, est-ce que le Fils de Dieu tient dans la balance, si je fais la balance entre ces millions de morts et ces millions d'agents du mal moral, et par rapport à Jésus, qui a subi certes un mal physique extrême sur la croix, mais qui a été finalement mis à mort par une toute petite poignée de personnes, Judas, quelques grands prêtres et chefs de la communauté juive qui ont demandé sa mort, Pilate et ses sbires. Et finalement, ça ne représente pas une masse considérable de personnes. Et on se dit, est-ce que dans la balance de nos jours, on peut encore tenir la chose de cette primauté, hélas, que le Christ est dans la foi, celui qui a été au summum du mal physique et au summum dans l'acceptation du mal moral. Eh bien, il faut le dire parce que c'est la qualité du Fils de Dieu. Et personne ne peut le revendiquer. Tout le monde est marqué par les conséquences du péché originel et donc a besoin d'une purification. Et d'une certaine manière, le seul qui n'avait pas besoin de purification, c'est le Fils bien-aimé du Père, vrai homme, vrai Dieu, parfait en son humanité, parfait en sa divinité. Et donc le mal moral qu'il a atteint est exponentiellement plus important que n'importe quel mal physique ou n'importe quel mal moral qui atteint un homme à cause de son immense dignité. Sa dignité est infinie. Et de ce point de vue-là, il arrive à résumer en lui-même toute sorte de mal physique que peut subir l'humanité et toutes sortes de mal moral que subit aussi l'humanité. Il les assume d'une certaine manière. Et étant éternellement vivant, il continue à l'assumer. Un jour, on voyait un jeune qui avait été pendu dans un camp en Roumanie qui n'arrivait pas à mourir parce que les nazis l'avaient pendu et la corde n'était pas assez prégnante sur le cou de l'adolescent qui n'arrivait pas à mourir parce que le poids, entre, le rapport entre le poids et la corde ne suffisait pas à ce que le coup soit suffisant. Donc il se tordait sur sa corde, il n'arrivait pas à mourir. Et des gens autour n'en pouvaient plus de voir cet adolescent qui mourait. Et à un moment, quelqu'un dans la foule s'est dit « Mais où est donc le bon Dieu ?» L'air de dire « C'est tellement injuste. » Et un homme de foi a répondu « Mais il est là, il est présent à cet enfant qui est en train d'agoniser parce qu'il s'est chargé de nos peines, dit le prophète Isaïe. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est même chargé des conséquences du mal moral sur les hommes. Et Jésus a voulu tout assumer et tout prendre en lui pour nous racheter, pour nous sauver. Il s'est incarné, dit le grand saint Augustin, par amour. Il ne faut jamais oublier que toute la geste du Christ est une geste d'amour et qu'il est venu nous tendre la main. Oui, alors du coup, il y a quelque chose qui s'illumine et on comprend que puisque Dieu est tout-puissant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit l'apôtre Paul, et les saints viennent aussi à notre secours en voyant qu'ils ont vraiment vécu jusqu'au bout cette vérité du mal physique à accepter et du mal moral à combattre, mais à combattre parfois à notre détriment, c'est-à-dire que quand on tient dans l'objection de conscience, quand on tient dans la vérité jusqu'au bout, ben parfois il faut en subir les conséquences terribles. Mais il faut bien préciser que Dieu, s'il permet le mal physique, s'il permet le mal moral, c'est qu'il est tout-puissant, qu'il peut en faire sortir un bien. Il ne faut jamais l'oublier. Et si Dieu permet que sa création a pu être réalisée d'une manière imparfaite, de telle sorte qu'il y ait un certain mal physique inhérent au fait que ce qui est faillible, puisque la création est faillible, eh bien, cette faillibilité est inscrite dans les gènes même de la création. Il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois, du point de vue seulement, je dirais, de la physique. Mais du point de vue du mal moral, il faut dire avec beaucoup de foi que Dieu n'en est absolument pas l'auteur, ni directement, ni indirectement. C'est très beau que le catéchisme le dise, parce qu'on pourra avoir une sorte de regard d'un Dieu machiavélique qui tirerait les ficelles, mais qui laisserait faire. Or, Dieu n'en est pas la cause, le mal, je parle bien du mal moral, ni directement, ni indirectement. C'est une formulation qui est grave, parce que souvent on accuserait volontiers Dieu de laisser faire une sorte de permissivité, on dirait de nos jours. La tolérance, de nos jours, la tolérance est une expression très souvent entretenue. C'est souvent une faiblesse des politiques pour ne pas lutter contre le mal moral et qui laisse faire en disant « moi je suis tolérant ».
Qui conduit à l'indifférence.
Et qui conduit à une indifférence totale et qui finalement ruine souvent des cœurs. Et oui, c'est une très mauvaise chose de nos jours d'avoir laissé s'infiltrer ce mot de tolérance à mauvais escient. Voilà ce que dit le catéchisme. Dieu, à propos donc du mal moral, Dieu n'en est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, cause de ce mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Et cette permission est vraiment écrite dans certains passages, par le plus fameux, c'est celle sur la tentation. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, nous l'avions déjà évoqué, mais il est bon de l'entendre en ce moment même, 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine, Dieu est fidèle, il ne permettra pas, » voyez le mot, permission est vraiment inscrit dans l'Écriture, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Ça peut être le martyr, la force de la supporter. Il ne faut pas croire qu'on est au pays d'Alice des merveilles ou dans un conte de fées au dernier moment où la baguette magique va nous sortir. Non, le martyr est en face de nous très souvent. Et quand on lit le martyrologe quotidien, on voit le nombre de chrétiens qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour la foi, ou la foi dans un aspect particulier, hein, l'Eucharistie, la fidélité au siège romain, quelques articles de foi. C'est assez impressionnant de voir qu'ils ont tenu bon dans la force de la foi, sachant que cette permission que Dieu leur donnait était pour un rebondissement qui pouvait atteindre quelque chose de plus grand. Et c'est la joie et la force de nos martyrs.
Pour que ce soit bien, bien clair, même si c'est sans doute une grande évidence, on a parlé du mal physique et du mal moral. Le mal moral est donc celui qui est lié au choix de l'homme, qui va donc être conduire au péché, qui va relever du péché. Celui dont Saint Paul peut dire à un moment, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais.
Romains 7, exactement. C'est exactement ça. Parce que le mal physique, eh bien, d'une certaine manière, il est une défaillance. Quand le lion mange la gazelle, il tire son pain, je dirais, de la nourriture du sol. Hein. Et pour nous, c'est un mal physique, mais il n'y a aucun mal moral dans une action de ce type-là. Mais quand l'homme se met à chasser indûment, pour son plaisir, des animaux qui sont dans des zones préservées, eh bien, il y a déjà le début d'un mal moral. Vous voyez, le mal moral est déjà là. Et entre nous, c'est encore plus grave, puisqu'on atteint l'image même du Fils de Dieu lorsque l'on atteint son prochain. Et il y a un mal moral, hélas, grandissant à mesure où l'homme se répand sur la planète. Et c'est vrai qu'il y a une certaine écologie chrétienne qui doit se rectifier en hiérarchisant la valeur qu'il y a entre le mal physique et le mal moral.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.
À bientôt.